Durant cette période de Noël, il y a une catégorie socio-professionnelle qui a beaucoup de travail, qui déborde d'activités, ils ne savent plus où donner de la tête. Je ne parle pas des chocolatiers ou des fabricants de foie gras et des vendeurs de foie gras du Sud-Ouest. Je veux parler des anges, une catégorie socio-professionnelle qui a du travail en cette période de Noël. Surtout l'un d'entre eux qui s'appelle Gabriel, puisque la semaine dernière, déjà, il était allé jusqu'au temple de Jérusalem pour avoir une petite conversation avec Zacharie ou un petit Kairos, vous vous souvenez, c'était la semaine dernière ici même, un dimanche matin, pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, une semaine après ou six mois après, il va vers le nord, il va vers la Galilée, vers une bourgade inconnue qui s'appelle Nazareth, et dans l'appartement d'une jeune fille qui s'appelle Marie, comme des milliers d'autres à l'époque. On est loin du temple et des sacrificateurs comme Zacharie, on est dans la chambre d'une jeune fille moderne du premier siècle. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ce récit de l'évangile de Luc nous met en présence de Marie. Et avec Marie, les protestants que nous sommes ont parfois quelques difficultés à la situer. Qui es-tu ? Marie, Marie, qui es-tu ? Et on connaît toutes les dérives de tous les du culte à Marie, et l'expression « Mère de Dieu », par exemple, nous gêne un peu aux entournures. Elle est apparue au 5e siècle après Jésus-Christ. Et je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un pasteur qui, un petit peu sournoisement, me disait « Mais si Marie est la mère de Dieu, la mère de Marie est la grand-mère de Dieu ?» Et puis l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle de Marie, l'Assomption du 15 août. Nous, on habite à 20 km de Lourdes et on sait que le 15 août, il vaut mieux pas prendre sa voiture. L'Assomption de Marie, le 15 août, les prières à Marie, toutes ces pratiques qui ont été au fur et à mesure érigées en dogmes pour l'Église catholique. Certains dogmes, comme l'Immaculée Conception, datent du 19e siècle, si je me souviens bien. Et nous pensons que ces dogmes ne sont pas bibliques et sont théologiquement, sinon dangereux, du moins troublants, ou néologisme confusionnant, c'est-à-dire qu'ils sèment la confusion. Et c'est pour ça que, protestants depuis la réforme du XVIe siècle, nous mettons en avant les cinq la sola scriptura, l'Écriture seule, la sola gratia, la grâce seule, et solus Christus, seul Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc sur la question de Marie, le rideau tombe lourdement, le rideau protestant tombe lourdement. Mais en tirant le rideau sur la question, il ne faut pas non plus complètement faire disparaître de la scène cette jeune femme du premier siècle que Dieu a choisie pour porter Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il ne faudrait pas qu'en réaction, nous oublions Marie, son rôle, son exemple, sa foi. Il y a une jeune femme catholique qui venait dans notre église, une jeune femme catholique de tradition et d'éducation, et elle est venue vers moi, et l'air un petit peu, beaucoup, très troublée, elle m'a dit, « Éric, on m'a dit que vous, les protestants, vous ne croyez pas en Marie. » Et là, il y a un énorme malentendu. Bien sûr qu'on croit en Marie. On croit en Marie telle que la parole de Dieu nous en parle, et elle nous en parle au chapitre 1 de l'évangile de Luc, qu'on appelle, nous l'avons lu, l'annonce faite à Marie. Ave Maria, en latin. Alors, ce qui est frappant dans ce récit, outre sa beauté, sa douceur peut-être, mais ce qui est frappant, c'est son côté scandaleux, n'est-ce pas ? On a tendance depuis des siècles à aseptiser ce récit de Noël, à sacraliser, on met des auréoles partout, les visages sont doux et souriants, il l'était peut-être, mais il faut bien se rendre compte que tout commence par un scandale. Une jeune fille tombe enceinte et elle n'est pas mariée, ou plutôt elle n'est pas encore mariée. Elle est fiancée à Joseph et donc déjà engagée. À l'époque, les fiançailles étaient déjà un engagement. Et pour rompre les fiançailles, il fallait une lettre de divorce. Vous imaginez le scandale pour Marie et sa famille, la réputation de Marie et de ses proches est mise en jeu. On imagine les ragots, les soupçons, les sourires en coin, les ricanements. Tu as vu, c'est elle qui... Mais Marie est prête à tout risquer, même sa réputation. Elle est prête à tout pour se mettre au service de Dieu. La petite Marie est prête à vivre ce scandale, à voir sa réputation partir en fumée, à entendre les réflexions derrière son dos, voir aussi les sourires entendus. Elle est prête à être l'objet d'un scandale, parce que pour elle, il y a des choses plus importantes que cela. Et cette chose au-dessus des autres, pour laquelle elle est prête à risquer sa réputation de fille sage, c'est de se mettre au service du royaume de Dieu. Quelque part, Marie est une révolutionnaire, elle est prête à marcher à contre-courant de la société, à se moquer du « qu'en dira-t-on ?» et tout cela, elle est prête à le faire pour Dieu. Et je me disais qu'au lieu de lui mettre un voile bleu, hein, souvent Marie, elle est en bleu, sauf sur ma photo que j'ai choisie, mais avec son visage angélique, on pourrait lui mettre des combat shoes, un t-shirt de Che Guevara, des piercings dans le nez. C'est une femme risque tout. Alors on n'ira pas jusque-là, mais voilà, je vous propose quelques images. Pop, pop. Ah, quel montage magnifique. Une risque tout, prêt à prendre son sac à dos pour partir à l'aventure. Ou comme Noémie Rapaz, c'est l'actrice là sur la droite, une actrice que j'aime bien, prête à rentrer dans un vaisseau spatial. Bon bref, Marie, une jeune femme fantastique, prête à tout pour Dieu, prête à perdre sa réputation pour que Dieu soit glorifié dans sa vie et dans le monde, une risque tout. Et on se demande si c'est pas pour cela que Dieu l'a choisie entre toutes pour porter Jésus. Elle n'était manifestement pas plus sainte qu'une autre, pas moins sainte, mais pas plus. D'ailleurs, la sainteté n'a jamais été un critère de choix pour Dieu. Ce qui était vraiment déterminant dans le choix de Dieu, c'est la disponibilité. Et cette disponibilité de Marie à vivre quelque chose d'étrange et dangereux pour elle, à sortir de son confort personnel. Oui, Dieu pourrait l'avoir choisi pour cela. Car Dieu utilise toujours ceux qui sont prêts à partir à l'aventure avec lui et pour lui, à risquer leur réputation. Et Marie est prête, Marie, l'aventurière de Dieu, la risque tout pour Dieu. Aventurière, peut-être, mais avec les pieds sur terre. Quand elle dit « Comment cela se peut-il, puisque je suis vierge ou puisque je ne vis pas avec un homme ?» On comprend bien que Marie, malgré son jeune âge, a saisi la complexité de l'histoire, quand même. Et elle comprend aussi que sa réputation est en jeu dans cette histoire. Mais dans cette question qu'elle pose, il n'y a pas de doute, semble-t-il, comme un peu avec Zacharie, il y a une semaine ou il y a 6 mois. Ici, c'est plutôt, elle pose la question du comment. Comment ? Et l'ange lui répond en utilisant une image très poétique. Et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'ombre comme la nuée qui entrait dans le sanctuaire et qui remplissait le sanctuaire dans l'Ancien Testament. Alors on n'est pas beaucoup plus avancé du point de vue obstétrique. L'ombre, mais cet enfant vient de Dieu. Cet enfant vient de Dieu lui-même. Et l'ange continue en précisant le nom et surtout sa grandeur. Cet enfant qui va naître, et il va utiliser le futur simple. Il sera. Il sera. Il sera appelé fils de Dieu. Et il y a de la puissance dans ce futur simple, il sera. Il n'y a pas à revenir là-dessus, ce n'est pas une conjecture, il n'y a pas de si tout se passe bien, si il arrive jusqu'à son baptême, s'il passe sa confirmation pour son baptême, s'il est là pour toutes les sessions du caté, si, non, il sera. Jésus ne sera pas adopté par Dieu au fur et à mesure. Il est, il sera grand, il sera fils de Dieu, saint pour sauver le monde. Et Marie prend cela et dit oui, sans hésitation. Elle ne manque pas de signe comme Zacharie, mais elle en reçoit un quand même. Tu sais, ta cousine, dit l'ange, très vieille, est enceinte, rien n'est impossible à Dieu. Ça fait 6 mois. Et elle aura besoin certainement, Marie, de ce signe pour alimenter sa foi tout au long de sa grossesse et encore après. Mais pour l'instant, elle est prête à risquer sa réputation de jeune femme juive de bonne famille pour répondre à l'appel de Dieu. Et en ceci, elle est pour nous un incroyable exemple. Pour nous qui avons peut-être tendance à rester dans le socialement correct, dans le religieusement correct, dans tout ce que vous voulez, mais tant que cela reste correct. Souvent, correct synonyme de tranquille, tranquillité. Et je me dis qu'en cette période de Noël, où tout se fera comme d'habitude très correctement, nous avons besoin de retrouver peut-être ce parfum de scandale qui émane du premier Noël et de cette jeune fille. En ce Noël 2018, nous devrions être prêts à vivre un certain scandale en tant que chrétiens, pour pouvoir glorifier Dieu d'une manière toute particulière dans notre vie. Parce que même si nous ne nous appelons pas Marie, Dieu nous a choisis, nous aussi, en Jésus-Christ. Dieu nous appelle chacun par notre nom pour que notre vie porte du fruit. Et pour mieux vivre encore l'exemple de Marie, j'aimerais décortiquer quelque peu ce récit et souligner 2 autres aspects de cette scandaleuse Marie qui sera si utile pour Dieu. Donc le premier aspect était le fait qu'elle était prête à risquer, tout risquer pour Dieu. Le deuxième, qui fait aussi de Marie une femme très utile à Dieu, c'est sa relation qu'elle a, la relation particulière qu'elle a avec la grâce. Et le mot grâce, d'ailleurs, revient 2 fois, en grec c'est le mot charis, dans les paroles de l'ange. Qui a été traduit parfois par « faveur ». La première fois, au verset 28, dans cette fameuse salutation, quand l'ange lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Et j'ouvre une parenthèse, il n'est pas dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». C'est une mauvaise traduction qui laisserait entendre que pleine de grâce, elle pourrait en transmettre aux autres. Ce n'est pas cela dont il est question dans l'original en grec. Le terme dans l'original met l'accent sur la réception de cette grâce. Et d'ailleurs, même la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique, Elle dit « comblée de grâce ». Elle traduit bien. Elle reçoit une grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, un regard favorable qui se pose sur elle. Il le dit deux fois, « Je te salue Marie, à qui une grâce, une faveur a été faite. » Alors comment va réagir Marie? Comment va-t-elle recevoir cette grâce? Avec cette réponse devenue extrêmement populaire en raison d'un vendeur de savon pour cheveux qui s'est parlé aux femmes, « Parce que je le vaux bien, bien sûr. Bien sûr que je la prends, que je la mérite, cette grâce. » Non, pas du tout. Marie est à des années-lumière de cela. Elle reçoit cette grâce avec énormément d'humilité. Et selon les traductions, on parlera de troubles, de surprises et même de bouleversements intérieurs. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle ne mérite pas cette faveur. Parce que Marie ne voit rien dans sa vie qui mérite une telle salutation de la part d'un ange envoyé de Dieu. Elle ne voit rien qui puisse, en elle qui puisse attirer la faveur ou la grâce. Et c'est pour ça qu'elle est troublée. Je ne mérite pas tout cela. Vous savez, quand quelque chose de désagréable vous arrive, on se pose tous la même question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et parfois, on ajoute trois mots au bon Dieu, hein, selon le titre d'un bon film bien français. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais il faut se rendre compte que quand quelque chose de bon et d'inattendu nous arrive, on ne se pose jamais la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait de si bien pour mériter ça ?» Non, jamais. On ne se pose jamais la question quand on reçoit du bien. Non, on prend ce bien. Et on se dit que quelque part, on le méritait. Parce qu'on le vaut bien. Marie, elle reçoit une grâce et elle se demande si elle la mérite. Et en fait, elle considère cette grâce comme elle est réellement une grâce, c'est-à-dire de quelque chose de complètement immérité. Et plus loin dans son fameux Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Quelle humilité en Marie. Et vous aurez noté aussi que Marie parle d'un Sauveur. « Mon âme, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Et qui a besoin d'un Sauveur? Sinon celui ou celle qui a besoin d'être sauvé. Marie a conscience, non pas qu'elle ne mérite rien, mais de ce dont elle a besoin. Et elle a besoin d'un Sauveur. Parce que Marie a conscience de son insuffisance, Marie a conscience de ses limites, de son incapacité à faire le bien qu'elle voudrait. Peut-être faire, mais sans jamais y parvenir complètement. Marie a besoin de quelqu'un qui viendrait prendre sur lui tout ce qui la sépare du Dieu trois fois saint. Mon esprit exalte mon Sauveur. Marie a l'humilité de reconnaître qu'elle a besoin d'un Sauveur. Et c'est ce genre d'humilité, de profonde humilité qui la rend si utile pour Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a été choisie. Non pas pour sa sainteté, mais pour son humilité à reconnaître qu'elle aussi a besoin d'un Sauveur. Marie est une femme qui reçoit la grâce de Dieu avec énormément d'humilité, et son exemple peut, doit même nous inspirer ce matin, alors que Noël approche, sommes-nous prêts à recevoir sa grâce, c'est-à-dire à reconnaître que nous avons besoin d'un Sauveur, nous aussi. Le troisième et dernier point, il vient à la fin du passage, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est Marie qui conclut par ces mots incroyables pour une jeune fille qui, 10 minutes avant, allait mener une vie tranquille, qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur. Et cela peut signifier pour nous simplement une belle phrase biblique, Mais ce serait oublier que c'est une jeune fille qui la prononce et qui n'a rien demandé à personne, qui avait fait certainement des plans pour sa vie, des projets. Bah oui, il y avait quand même Joseph dans les parages. Et là, elle abandonne, enfin quelque part, en tout cas le plan Joseph, elle va le reprendre après, mais elle abandonne ses plans pour se soumettre à celui que Dieu fait pour elle. Pour partir à l'aventure d'une grossesse improbable, on va dire aujourd'hui. Qui, en effet, a déjà porté le Fils de Dieu. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que Dieu s'est déjà incarné? Non, tout est nouveau pour elle. Quelle aventure! Et elle dit, oui, je suis la servante du Seigneur. Il y a un chant que je ne sais pas si vous connaissez ici. C'est le titre, c'est « Reçois ma vie comme une adoration ». Et le couplet pourrait être mis dans la bouche de Marie et peut-être dans notre bouche, mais « J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes désirs, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. » Et c'est vraiment ça pour Marie. Et elle sera utile entre les mains du Seigneur dans cette disponibilité qu'elle a à abandonner ses plans de carrière ou ses plans de vie familiale tranquille pour adopter le plan de Dieu pour elle et pour l'humanité. Cette jeune fille d'une petite bourgade de Galilée, elle a une vision beaucoup plus large que son petit univers galiléen ou nazaréen. Et elle veut être la servante du Seigneur dans le plan qu'il a pour les hommes et les femmes de sa génération et de celles qui suivent. Et pourtant, on sait aussi que cette grossesse ne va pas lui apporter que des joies, plutôt même des problèmes. Il n'y a personne qui veut voir son fils rejeté par toute la société ou par le gratin de la société. Il n'y a aucune mère qui veut voir son fils mourir d'une mort violente dans la trentaine. Bon, elle ne le sait pas à l'époque, mais on peut imaginer qu'elle a dû pressentir que tout ne se ferait pas sans heurts et sans souffrances. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce qu'on pourrait dire cela ce matin ? Décidément, cette scandaleuse Marie a des choses à nous dire pour être des hommes et des femmes utiles pour le Seigneur et son royaume. Comme elle, une grâce nous a été faite. Une faveur nous a été faite en Jésus-Christ. Et un appel nous a été adressé en lui aussi. Allons-nous répondre comme elle, en étant prêts à prendre des risques pour Dieu? Et on a développé dans le review précédent le thème de l'audace. C'est ça, l'audace, prendre des risques, être audacieux pour Dieu, prendre des risques. Prendre le risque de perdre sa réputation de gendre parfait ou de petite fille qui fait tout bien. Prendre des risques pour Dieu. Déclarer aussi sa complète dépendance par rapport à la grâce de Dieu. Renouveler en ce temps de Noël sa dépendance par rapport à la grâce de Dieu. Je ne mérite rien, mais j'accueille avec grande humilité cette grâce qui me mobilise. Et puis en étant disponible pour entrer pleinement dans le plan de Dieu qui m'appelle à son service pour le monde, en tant que témoin de cette grâce, en abandonnant peut-être quelques ambitions personnelles au passage. Le chant que vous allez entendre tout de suite n'est pas un chant d'adoration à Marie. Je ne vous propose pas l'Ave Maria. Mais un chant qui nous parle de Marie, et le titre c'est « Marie, savais-tu ?» Marie, savais-tu tout ce qui allait arriver? Non, tu ne le savais pas, mais tu as dit oui à Dieu malgré tout. Et tout cela s'appelle la foi, Marie, une femme de foi, et en cela elle était exemplaire. Et la traduction va défiler, et je vous propose un petit temps de recueillement en écoutant ce beau chant en lisant les paroles sur Marie. Merci.
that your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh Mary, did you know?
Seigneur, merci pour l'obéissance de Joseph. Merci pour la disponibilité de Marie. Merci pour leur exemple. Merci pour son exemple. Sa relation particulière avec la grâce. Et ce matin, alors que nous célébrons un peu en avance Noël, en cette période de Noël, en cette période tellement troublée de Noël, mais où aussi l'ambiance peut être un petit peu, où on nous annonce Noël dans un esprit de, dans un goût de douceur, avec des images pieuses, avec ces cadeaux, les enfants heureux, qui ne correspondent pas à la réalité. On te remercie Seigneur parce que Marie a eu le courage de faire route avec toi, d'accepter le scandale, d'aller à contre-courant. Merci Jésus parce que tu es grand et tu as été le sauveur de Marie comme tu veux être aujourd'hui le sauveur, mon sauveur, le sauveur du monde, le sauveur de ce qui nous entoure ici à Cannes et plus loin encore. Donne-nous de prendre à Noël, dans cette période de Noël, de prendre le risque de t'annoncer, d'être tes témoins de cette grâce et d'en vivre. Ne permets pas que nous retournions à notre philosophie du mérite, mais que nous puissions vivre pleinement de ta grâce. Merci parce que à Noël, tu nous fais ce cadeau immérité de Jésus qui meurt pour nous. par amour et qui ressuscite pour nous donner accès à cette vie nouvelle. Donne-nous, Seigneur, de vivre avec l'obéissance de Joseph et l'engagement de Marie. En ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous sauver. Amen. C'est le temps de l'offrande. Alors, à Noël, on est très sollicité, évidemment. Et oui, tu peux faire passer les bourses. On est très sollicité et cette collecte vient peut-être comme une sollicitation de plus. Mais le Seigneur, dans sa parole, insiste sur le côté volontaire et libre de nos offrandes. Ceux qui nous rendent visite, qui se sentent libres, non pas de prendre dans les poches, mais de ne pas mettre dans les poches. Et pour ceux qui s'engagent à donner régulièrement, qu'ils le fassent vraiment dans la joie. Quelques annonces pour faire suite. Mercredi 19 décembre, chorale à 20h30, parce que cette chorale, oui, alors vendredi 21 décembre, culte de Noël au Bougainvillé à 10h30, en commun avec les PUDF, avec surtout Philippe Fromont et son équipe aussi. Et puis, une petite annonce sur PLV, certains l'ont... Alors PLV, ça veut dire, anciennement, ça voulait dire pour la vérité, ça veut toujours dire pour la vérité, mais avant il y avait un magazine, maintenant c'est par Internet, c'est numérisé, et vous l'avez reçu peut-être hier soir, je vous ai envoyé un message hier soir, si vous ne l'avez pas reçu, peut-être que vous pouvez me donner votre adresse mail, et puis on pourra vous l'envoyer.